Je t'en prie, fermez la porte. Voilà, alors vous avez dû voir dans votre programme que nous aurons ensemble une série de cours sur le sujet de la prière, qui est un sujet extrêmement vaste dans la tradition juive, et j'ai choisi un problème en particulier que je vais vous rappeler, je suppose que vous avez lu l'intitulé dans votre programme. Mais avant cela, je voulais vous souhaiter la bienvenue, bien qu'avec une semaine de retard. J'espère qu'on aura le loisir de faire connaissance, plus ou moins, s'il y a suffisamment de temps. Et alors, ce que je voulais vous demander, je ne sais pas si vous pourrez me répondre positivement, mais c'est de garder la même place que vous avez chaque fois. Je vais vous expliquer brièvement pourquoi. C'est une question de stratégie mentale, tout simplement. C'est que je vous connaissais pas forcément. Ça, c'est pas grave, on peut faire connaissance, mais je ne peux répondre aux questions que si je sais qui les pose. Et si vous changez de place, alors les questions ne sont plus à la même place, ni dans la salle, ni dans ma tête. Alors, vous avez compris ce que je veux dire. Alors, essayez de faire un effort, et d'ailleurs, je crois que c'est valable pour tous les professeurs, d'ailleurs. À partir d'un certain âge, et figurez-vous que ça existe, On a devant soi un échiquier avec 30 joueurs différents. Alors si en plus ça change de place, vous avez compris le problème. Enfin, je vous demanderai aussi si c'est possible d'être à l'heure, qu'on puisse commencer pour tout le monde à la même heure. J'essaierai moi-même d'être à l'heure. Pour moi, c'est pas tellement difficile, je suis là à l'avance. Mais pour vous, c'est la psaka, alors c'est un peu difficile. Mais faites quand même un effort. Bien. Alors, voilà. Nous avons cette semaine deux cours ensemble, ensuite vous êtes en Tihoul, plus un troisième qui aura lieu vendredi. Alors pour les deux cours d'aujourd'hui et de mardi, nous allons explorer le sujet de manière générale. Ça ne sera jamais exhaustif. Vous avez dû remarquer que dans les études juives, rien n'est jamais exhaustif simultanément, je veux dire dans le moment. Mais excusez-moi s'il y a des mots français qui m'échappent. Mais vous les réintégrez par vous-même. On perd l'habitude du français, ça arrive. C'est bon signe pour nous, en tout cas. Mais ça arrive. Et les autres séances de la semaine prochaine, on la consacrera à une étude de texte. Je pense qu'à Rachi, on a oublié de vous demander, pour ceux qui en possèdent, d'amener un livre de prière avec traduction française. On n'en a pas ici. Alors, vous suivrez sur les livres sans traduction. C'est pas grave, vous noterez vous-même les traductions qui vous seront nécessaires dans vos notes. Bien, alors je commence tout de suite sur le sujet général et vous verrez que nous avons des questions de vocabulaire à mettre au point par le fait que ça a dû vous être déjà dit, par le fait que nous allons étudier des contenus qui ne sont finalement possibles à élucider qu'en hébreu. Et nous allons les étudier en français, en nous servant d'une langue qui est très différente de la langue hébraïque. Et c'est ce qu'on appelle en hébreu une mission impossible. Messima bilti absharit. En principe, c'est impossible. Il n'y a que de très grands hommes qui sont arrivés à pouvoir traduire du français à l'hébreu, de telle sorte que ce soit compréhensible, bien sûr, et que ça reste exact. En général, ce sont de grands poètes. Par exemple, Edmond Fleg, si vous en avez entendu parler. Il y en a d'autres. André Néer avait une langue française très précise et très claire. Lévinas, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi j'ajoute bien sûr à cause des autres. Enfin, bien sûr, trois fois. Mais c'est très rare. Parce que c'est une langue d'origine assez complexe, mais le fond est un fond, celte, gaulois, français, mais enfin, disons, européen, occidental. Mais les structures et les catégories sont notablement gréco-latines, et déjà il y a un affrontement culturel et spirituel entre le monde hébraïque, la Grèce et Rome, avant même que le français ne se constitue comme langue de communication des consciences et comme langue d'expression d'une vérité, la vérité selon l'âme française, disons. Et en plus, cette langue française est imprégnée de signification chrétienne, en particulier dans les catégories, les concepts qui nous concernent, nous, juifs. Et par conséquent, il y a tout un travail d'élucidation et de clarification à faire. Et c'est pourquoi je vous demanderai de prêter attention à la manière dont j'emploie les mots français dans chaque contexte. C'est-à-dire, je vais chaque fois essayer de les employer, d'abord dans le minimum commun de sens général qu'ils ont en général, et toujours avec le même sens dans le même contexte. Parce que ce qu'il y a de difficile avec le français, pour ce genre d'études, le français qui est une langue extrêmement riche et extrêmement nuancée, comme la culture qu'elle exprime, c'est précisément c'est cette richesse de nuances qui fait que dès qu'on change d'une nuance de connotation ou de signification, le sens vraiment change. Surtout lorsqu'il s'agit de désigner un mot hébreu qui lui-même a sa propre connotation et a sa propre signification et dans des catégories qui ne se recoupent pratiquement jamais avec celles du français. Voilà, je pense que vous avez déjà donné des soucis. Mais ayez ça en tête, l'emploi du terme n'est jamais fortuit. Je dis ça surtout à propos des questions qui risquent de se poser à vous. Vous verrez, en particulier, c'est mon expérience, mais je pense qu'elle est commune à beaucoup d'enseignants de judaïsme en français, que très souvent des fausses questions, des questions qui n'ont pas d'objet, se posent à l'esprit de celui qui la pose, parce qu'il a changé de signification du terme qu'il emploie. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors faites bien attention à ça, ça nous économisera du temps. N'ayez pas honte, si j'ose dire, quand vous posez vos questions, de faire allusion à ce que vous avez entendu dans le cours exactement comme vous l'avez entendu. Parce que si vous changez ce qui a été dit, c'est une autre question, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Nahon? Oui, et en général, vous verrez que c'est à propos de tous les concepts. Bien. Alors je voudrais poser d'abord deux questions d'élucidation de vocabulaire, ce sera la première partie du cours d'aujourd'hui. Vous me direz que vous serez un peu fatigué. On fera une petite apsaka et en principe on travaille jusqu'à 1h30. Donc l'homme horaire. Midi et demi, oui. Je suis encore avec l'heure de mon bref. Bien. Alors, je voudrais d'abord, on va se demander, lorsqu'on dit prière et prier en français, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça désigne d'une façon générale, en milieu juif, parlant français, tout un ensemble de rites différents qu'on a l'habitude d'amalgamer derrière le même mot, la prière. Et ce sera la première analyse des élucidations. Nous verrons que, en hébreu, le mot que l'on traduit par le mot français de prière désigne un rite oral très précis qui est le rite de la demande. Vous allez noter ça comme première définition de postulat. Ensuite, on va y réfléchir et en discuter. Or, lorsqu'on dit en français prière, même dans la liturgie juive, je ne passe pas dans la liturgie d'autres religions, et c'est aussi vrai ce que je dis là, on fait allusion, comme je viens de dire, à des rites oraux, c'est-à-dire des rites dont l'essentiel se fait par la parole, rites oraux. Il y a des rites qui sont des rites au niveau des actes, et il y a des rites qui sont des rites oraux. Je ne vous dis pas encore comment ça s'appelle en hébreu, pour ne pas trop charger le problème, mais d'abord, gardons notre question centrale. Vous savez, vous allez me dire si ça se recoupe avec vos connaissances préalables, sinon j'explique plus. Une prière, entre guillemets, comme le Kriyat Shema, la lecture du Shema, on appelle ça une prière, ce n'est pas une prière. C'est un tout autre rite. C'est un rite de proclamation de foi. Alors, un rite de proclamation de foi, on appelle ça une prière parce qu'on a fini par faire un amalgame. En français, on dit un amalgame ou une amalgame ? Un amalgame entre ce rite qu'on appelle la prière et tout rite se faisant par la parole. Or, nous avons dans le livre de prière, le rituel, le sidour en hébreu, et ça correspond dans ce qui se passe à l'office en synagogue, tout n'est pas la prière. Il y a une toute petite partie qui est la prière. Il y a d'autres rites oraux qui, ensemble, font la ravoda, le culte, l'office, comme on dit en français. De toute façon, c'est comme ça qu'on dit, hein, disons, le culte. Et la prière, ce sont les textes que l'on dit, que l'on exprime, que l'on récite, que l'on proclame, dans le comportement qui consiste à demander à Dieu quelque chose qu'on ne peut pas obtenir par soi-même. Et ça, c'est une toute petite partie, encore une fois, du rituel. et de ce qu'on appelle, à tort, de façon trop généralisée, la prière. Je vous donne un exemple. Le Kriyat Shema, j'espère qu'on aura le temps d'en étudier quelques versets, dans tout autre rite. Ou le Kaddish. Alors, le Kaddish. Alors là, il y a un amoncellement d'ambiguïté. Spontanément, ce mot vous dit sûrement quelque chose. Kaddish, prière des morts. Bon, comme si les morts prient. Mais, non, c'est sérieux ce que je vous dis là. C'est mal traduit, on ne sait pas ce qu'on dit. D'abord, ce n'est pas une prière. C'est un rite de sanctification. Et c'est la prière des orphelins, des gens qui sont en deuil, pas la prière des morts. Vous voyez comment ça se décale, ça se déplace. Je vous dirais, c'est une observation générale, mais elle vaut bien entendu au premier chef pour notre sujet. Le français est une langue, je l'ai signalé, je vais dire autrement, c'est une langue très peu apte à traduire l'hébreu. Il y a d'autres langues non juives où c'est beaucoup plus aisé. Par exemple en anglais, pour ceux qui connaissent l'anglais, vous savez que transposer un texte hébreu en anglais, c'est beaucoup plus aisé que de le faire en français. Et les textes anglais qui traduisent les textes de base et les commentaires, c'est encore plus compliqué dans les commentaires, eh bien, sont beaucoup plus accessibles, on peut travailler avec, que les textes français. Je vous dis l'anglais parce que c'est une langue que je connais un peu, par rapport à l'allemand que je ne connais pas du tout, je ne sais pas quelle est l'expérience pour l'allemand, mais c'est probable, puisqu'il y a énormément d'études scientifiques sur les textes juifs qui ont été faites en allemand, c'est pas pour rien. Mais ça, c'est un problème en soi. Nous avons avec l'identité britannique et la langue anglaise un lien particulier. Je parle d'Israël, du peuple juif, de l'histoire juive. En ce qui concerne notre problème, c'est le fait que la langue anglaise littéraire s'est constituée du dedans des traductions de la Bible. Et donc, ça a imposé à la mentalité littéraire même de la langue anglaise classique une certaine harmonie avec les concepts bibliques, ce qui n'est pas le cas pour le français. Le français est passé par le grec ou le latin pour s'approcher de la Bible. C'est aussi un peu vrai pour l'espagnol, pour les traductions espagnoles, déjà au Moyen-Âge. Mais notre relation avec l'univers culturel britannique, disons, ou anglais en général, les juifs gallois, les juifs écossais ou les juifs irlandais ne seraient pas contents que je dise britannique quand on fait allusion à eux. Je dis anglais quand on fait allusion à eux, c'est des britanniques. Vous avez compris que le nationalisme diasporique juif est très pointu. Et vous avez compris ce à quoi je fais allusion. Ça m'a fait penser à autre chose. Mais par exemple, la diffusion de la Bible s'est faite dans toutes les langues, mais notablement en anglais. Il y a un problème en soi. Il y a une sorte de lien à la fois de captation d'héritage et d'héritage purement et simplement adapté et adopté, fait par cette culture britannique. Pourquoi c'est important? Indépendamment du fait que nous avons reçu de leurs mains Eretz Israël, il faut dire qu'on les a aidés un peu, mais malgré tout, l'anglais est devenu la langue universelle de communication des consciences à tous les niveaux, dans la civilisation contemporaine, beaucoup plus que le français, beaucoup plus que l'espagnol, bien sûr, ou d'autres, et il tend à prendre la place du grec dans le monde culturel, et la place que le grec avait dans la relation entre Israël et la pensée universelle. Voilà, ce que je dis est très schématique, mais c'est pour vous signaler que vous serez beaucoup plus aidé par les traductions en anglais, dans tous les cas, les études en anglais, qu'en français. C'est très paradoxal et on peut le regretter, mais c'est ainsi. Donc, c'est un autre problème. Et alors, je reviens à notre sujet. Que disons-nous quand nous disons prier? Eh bien, finalement, nous disons cela. Nous disons que nous sommes occupés à un comportement rituel, et on essaiera d'élucider qu'est-ce que c'est qu'un rite à ce propos, un comportement qui consiste pour la créature à se mettre devant Dieu comme créateur et à lui demander quelque chose qu'il ne pourrait pas obtenir par lui-même, c'est-à-dire par son travail. Et le travail, c'est une catégorie qui est importante à élucider aussi en hébreu, Eh bien, le travail, c'est ce à quoi l'homme comme créature est voué de telle sorte de faire que le monde qui lui a été créé soit de plus en plus conforme au projet du créateur. Je vous parle en catégorie biblique et traditionnelle juive. Ça peut être dit d'une autre manière. Le travail, c'est ce qui permet à l'homme de transformer la nature en culture. Et c'est pourquoi le travail s'appelle, originellement, étymologiquement, culture. Mais ce qui est important pour nous, c'est que c'est le même mot dont la tradition va se servir pour dire le travail, dans le sens général du terme travail auquel je viens de faire allusion, et le rite. Le travail se dit « avoda » et le rite se dit « avoda » aussi, avec un adjectif qu'on va voir tout de suite. Bon, quel est le lien entre ces deux notions, déjà au niveau du vocabulaire? Je vais ouvrir le tableau. Voilà, oui, c'est le mot « avoda ». « Avoda », le travail, okay. Et ça veut dire, le sens général, c'est le travail. Il y a d'autres termes pour dire le comportement que l'on désigne par le terme français « travail ». Il y a « melacha », par exemple, je ne vais pas entrer dans les autres catégories. Mais « avoda » a deux dimensions très importantes. C'est le mot de qui en découle, le mot de « eved », « serviteur ». Et l'oslira, le mot de Eved, esclave, et le mot de Roved, travailleur. Mais le mot de Eved, esclave, a aussi le sens de serviteur. Et vous voyez à quel point il faut être agile, comment dire en français, il faut être compétent dans ses nuances pour ne pas se perdre dans des amalgames de catégories. Alors, la notion de créature au service du créateur, c'est que on a reçu en charge, à l'origine de l'histoire humaine, selon le récit biblique, j'ajouterai toujours selon le récit biblique, mais si j'oublie, vous l'ajoutez, un monde à achever. Tout ceci s'étudie sur des versets précis et dans des chapitres précis de tel ou tel texte traditionnel précis. Okay. Nous avons reçu un monde créé par un créateur qui, semble-t-il, fait confiance à sa créature pour faire que le monde qu'il lui donne à l'origine soit mérité dans un effort d'achèvement qui en fait de ce monde une réalité plus conforme au projet du créateur. Et là, vous avez la dialectique, ce monde-ci, le monde à venir. Le monde à venir, ce serait le projet du créateur achevé, réussi. J'ai pas dit parfait, parce que c'est une catégorie en français qui a encore trop de sens grec, ou latin plus exactement. Et ça, nous aurons peut-être l'occasion de rencontrer cette notion. Mais l'hébreu, shalem, shlemut, se traduirait plus exactement en français par la notion de plénitude que par la notion de perfection. La notion de perfection est une notion rebelle à la pensée juive. Le Maharal a de très beaux textes là-dessus. Il cite l'enseignement du Talmud, là où la perfection, dans le sens grec, s'est achevée, c'est la danse du Satan. Ça veut dire que la mort s'est installée. Ce qui est achevé, complètement fait, perfectum, c'est fini. Est-ce que c'est clair ce qu'il a? Oui, une perspective intellectuelle qui est très différente de ce qu'on veut exprimer lorsque l'on traduit le mot hébreu « shalem » par « parfait » en français. Je reviens donc à notre problème. La créature est définie comme Eved Hashem, serviteur du Créateur, serviteur de Dieu. Quel est son service? C'est le travail. C'est-à-dire, en principe, a priori, dans le premier projet de la relation de la créature et le Créateur, le rite, c'est le travail. Et voilà que, avec le temps, il y a un décalage qui se fait dans le travail entre le métier et la vocation. Et très rares sont les métiers où on a la chance que ça coïncide avec la vocation. Et même quand c'est le cas, c'est plein de problèmes. Je vous raconte une histoire juive que vous connaissez, mais qui éclaire bien ce problème. Quand deux femmes juives enceintes se rencontrent, qu'est-ce qu'elles se demandent? Lequel tu attends, l'avocat ou le médecin? Vous connaissez cette histoire? Eh bien, il y a des métiers où, effectivement, en principe, le travail et la vocation coïncident. Mais c'est très rare. Et même là, un médecin qui n'est pas charlatan, il faut le trouver pour avoir des adresses. Et puis, un avocat qui n'est pas un avocat marron, comme on dit en français, ça se dit toujours comme ça, eh bien, il faut savoir aussi. Et donc, on voit rapidement, à l'origine, le métier d'homme, et donc le rite, et ça je vous cite des textes du Midrash qui nous montrent que c'était ainsi, ça aurait dû être ainsi si nous étions restés au paradis originel, que le rite, c'est le geste de vie, c'est le métier d'homme. Dans son geste de vie, dans son métier d'homme, l'homme est le serviteur qui est au service du Créateur pour transformer le monde qu'on appelle ce monde-ci, dans l'état de ce monde-ci, en un monde beaucoup plus, de plus en plus et jusqu'au bout, conforme au projet du Créateur et qu'on appelle la dimension du monde à venir. Il est en train de venir. Et vous voyez que déjà, là, nous avons touché la notion implicite de cette analyse et que nous impose le lien entre Avoda travail et Avoda rite, le fait qu'il y a une inadéquation entre le monde de la réalité et le monde du projet du Créateur, que en termes philosophiques, on appellerait le monde de la vérité, par exemple, le monde de l'idéal, si vous voulez. Et la Bible nous fait prendre conscience que dès le point de départ, il y a une inadéquation, un décalage entre le projet du Créateur et la réalité dans laquelle nous sommes insérés, et par rapport à laquelle, alors je reprends les postulats bibliques, par rapport à laquelle l'homme a le devoir de service, et en cela il mérite de l'avoir reçu, de faire que ce monde-ci devienne de plus en plus le monde à venir. Ça c'est Avoda travail, ce n'est que tardivement qu'on va avoir besoin du rite. En principe, le rite c'était le travail. Et c'est pourquoi dans toutes les traditions, et dans la tradition biblique en particulier, on s'aperçoit que la religion originelle est beaucoup plus familière à l'agriculteur qu'à tout autre type de métier humain. Que la première culture, c'est l'agriculture, et que on ne peut pas comprendre les rites si on ne comprend pas aussi, mais premièrement, leur fondement de signification au niveau agricole. Je vous signale un problème, en passant, que nous allons reprendre d'une autre manière, le fait que l'homme doit manger pour vivre. Bon, il y a une blague philosophique bien connue à propos des thèmes de Molière, je suppose. Il ne faut pas vivre pour manger, mais il faut manger pour vivre, machou kazéken. Vous rappelez, hein? Bon, mais il y a un scandale philosophique que l'homme, qui est le lieu des valeurs, par sa conscience, par son acte de conscience, doit, pour exister, manger. Que finalement, l'insertion de la valeur dans la réalité dépend d'un certain nombre de substances qui apparemment n'ont rien à voir avec les valeurs. Des lipides, des hydrocarbones, des protéines. Et si ça manque, syncope de la conscience et la valeur disparaît. Est-ce que c'est clair? À ma connaissance, je connais pas de réponse dans l'univers philosophique. C'est un scandale sur lequel le philosophe est très discret parce qu'il n'a pas de réponse. Mais c'est un problème qu'on rencontre dès l'origine de notre tradition. C'est dès les premiers mots du récit biblique sur l'histoire humaine, on voit qu'il y a une désignation du geste de vie, manger et faire des enfants, comme étant le commandement fondamental donné au premier homme. Toute la Torah du premier homme, c'est comment manger, enfin manger d'abord, et faire des enfants. Très souvent, le moderne, lorsqu'il réfléchit sur ce qu'il croit être la religion juive, est pris d'étonnement. Qu'est-ce que la religion a à faire avec les casseroles et les draps de lit? Et pourtant, dès qu'on commence à étudier le Shouchanahouk, on fait le code, on s'aperçoit que c'est parmi les essentiels les plus importants. Comment manger, comment faire des enfants. Vous avez dû remarquer cet étonnement de l'homme de culture occidentale générale. Quel rapport a priori? C'est que ça ressort d'une mentalité religieuse, d'une expérience religieuse d'un tout autre ordre, dans lequel les Juifs sont plongés en tant qu'ils sont des Hébreux exilés dans des contextes étrangers, et d'ailleurs en conflit de rupture et de rivalité vis-à-vis de la Bible elle-même, lorsqu'on pense au monde chrétien, c'est encore plus fort qu'au monde musulman. Le monde musulman, c'est vrai aussi, mais c'est moins aigu. Il y a une approximation de l'identité hébraïque dans l'identité islamique. Alors qu'avec l'identité chrétienne, c'est vraiment presque le lien inversé. Lorsque nous disons pur, chez eux c'est impur, et inversement. Lorsque nous disons saint, chez eux c'est profane, et inversement. Or, comme on emploie les mêmes mots pour dire des choses pas forcément identiques, je reviens à la difficulté de notre étude. Eh bien, il arrive donc qu'il va y avoir une vocation d'ordre, on va dire, religieux, rituel, spirituel, qui serait l'acte humain, le geste humain, qui primitivement était la religion. Et d'après beaucoup de textes, et c'est pas forcément de la mystique dans le sens un peu banalisé que ce terme a dans la civilisation contemporaine, et même plus que banalisé, gauchi, enfin, déprécié. C'est une des dimensions de l'existence dans le monde à venir. L'existence, les gestes d'existence étant les gestes du rite. Et alors, donc, la notion du rite va nous apparaître comme très simple. C'est le geste humain poussé à la limite. Alors là, en français, on a des mots pas hébreux, du sacré, du parfait, de l'idéal, mais à la limite de sa signification. Et ce qu'on appelle en hébreu la kavana d'un rite. Alors oui, déjà le monde de problèmes, dès que j'ai cité ce mot-là. Qu'est-ce que c'est la kavana d'un rite? La ferveur. Mais la ferveur peut se porter sur tout objet de ferveur. Je ne sais plus, c'est André Gide. Nathanaël, je t'enseignerai la ferveur. Oui, le genre de ferveur. Eh bien, et donc, voilà, kavana. Mais kavana a beaucoup de sens. Mais je retiendrai sur ce point de l'analyse le sens de signification plus particulièrement. Le fait de faire quelque chose en ayant lucidement à l'esprit la signification de ce qu'on fait. Et très rapidement dans l'histoire de notre tradition, les rabbins ont décidé que le rite ne supposait pas de façon obligatoire qu'on en ait la kavana pour être valable, pour une raison très simple. Que plus personne ou presque n'en est capable. Est-ce qu'on sait ce qu'on fait lorsqu'on fait ce qu'on fait? Et par conséquent, la kavana qui nous est demandée, c'est de prêter attention de façon suffisante, premièrement, pour ne pas penser à autre chose, et deuxièmement, pour faire sérieusement ce que l'on fait. Et j'allais ajouter, même si on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais on a l'intuition que c'est ça qu'il faut faire. Pour que le geste humain prenne sa signification totale, limite, qu'il a perdue avec le temps. Mais en retenant que le rite fondamental, la religion humaine originelle, c'est le fait de vivre avec la signification de la vie, des gestes de la vie, selon le projet du Créateur. Et que vraiment ça concerne l'effectuation de l'existence. Que vous voyez pourquoi la avoda, dans le monde juif, la avoda dans le sens de rite concerne les gestes de la vie, bien sûr, avec les intentions de ferveur dans la définition que j'ai déjà donnée, mais on y reviendra. Mais j'essaie d'indiquer déjà que ça ne concerne pas les intentions d'abord. Et lorsqu'on traduit kavana par intention, c'est un sens déjà très dérivé. Je reviendrai sans doute sur ce terme dès qu'on commencera l'étude des textes. Mais peut-être même déjà aujourd'hui, en étudiant la première chose en Talmud qu'on va vous distribuer. Alors, on va avoir un adjectif qui précise qu'on ne parle pas de la avoda dans le sens, j'allais dire profane, mais il faudrait dire profané. Vous savez, les gens de métier, je pense par exemple à ces confréries de compagnonnage au Moyen-Âge, il y en a encore des artisans comme ça. Les frères de ces confréries avaient le sens très aigu que lorsqu'ils étaient occupés à leur travail, eh bien c'était, pas par façon de parler, un rite non moins valable que les rites qui se faisaient à l'église ou à la synagogue. Mais c'est un monde qui nous échappe un peu parce que nous ne sommes plus de cette expérience anthropologique. Nous sommes les modernes, et en ce sens très dévitalisés, très, très abstractifiés du point de vue de ces significations spirituelles. Je crois qu'il est arrivé une catastrophe en Occident. Les historiens cherchent à la dater. L'hypothèse qui me plaît le plus, pour des raisons d'ordre historique, c'est lorsque les jésuites ont réussi à détruire les Templiers, l'Occident a perdu sa tradition. Mais on sent bien que le moderne est très mal à l'aise dans les choses de l'esprit, et il ne dispose pas du langage, sinon celui de la vie intérieure des poètes, encore une fois, suffisamment précis et clair pour dire ce qu'il veut dire lorsqu'il désigne l'effectuation de comportements spirituels. Mais je reviens à un sujet. Et donc, on va dire en hébreu, Avodat HaKodesh. Le rite, c'est le travail, alors comment traduire ? Du sacré à Kodesh. Ce terme de sacré est un terme païen qui n'a pas cours dans la tradition biblique. Et il faut préférer la sainteté. Si vous voulez, quand même, c'est nécessaire. Je dis trop de choses sous forme de postulat parce qu'on a peu de temps. Mais d'élucider cela, c'est un sujet pour lui-même. D'ailleurs, les penseurs juifs contemporains qui écrivent en français s'emploient la plupart du temps à indiquer qu'il ne faut pas confondre entre sacré et sainteté. Mais le terme de sacré dérive un peu de la pensée, beaucoup de la pensée magique. Comme si certaines réalités du monde avaient une sorte de fluide mystérieux qui y mettrait du sacré. Vous voyez, ce profil est derrière le rite de la messe, qui fait que le pain, étant consacré, devient sacré. Et vous voyez tout ce qu'il y a derrière. Et le sacer, en latin. Alors que la sainteté, ça a une connotation tout à fait différente en hébreu, et donc dans la mentalité juive, quelle que soit la langue qu'on va employer. Il y a d'abord une allusion au fait que la morale est présente. Dans sainteté, il y a moralité. Alors que dans sacré, c'est pas nécessaire. C'est un monde en soi dont les comportements se suffisent à eux-mêmes. Et tous ces dangers de l'envahissement, de l'attitude, des comportements de superstition et de magie dans le monde religieux lui-même viennent de là. Dans la religion chrétienne, il y a des sacrements. Alors, qu'est-ce qui lui correspond dans la religion juive ? Avant de réaliser un rite, une mitzvah quelconque, nous disons Asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné d'eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire être sanctifié par un comportement ? Et que, bien évidemment, ce n'est pas un sacrement. Et c'est pas seulement le fait qu'inévitablement on rencontre ces difficultés de langage, et donc il faut les signaler, c'est qu'il faut vraiment élucider de quoi il est parlé. Et alors, Avodat HaKodesh. Alors voilà, le rite, c'est la Avoda, mais que la Torah nous aide à la Avoda, le travail humain, le métier d'homme, à réaliser au niveau de la sainteté. C'est très résumé, mais j'espère que c'est suffisamment clair, sinon vous m'interrogerez. Et très vite, la Torah a jugé, indépendamment des raisons historiques qui en sont la cause immédiate ou seconde, que pas tous les Hébreux, pas toutes les tribus d'Israël étaient aptes à ce comportement de sainteté, mais elles étaient aptes au comportement du travail tel qu'il doit être régi par la Torah. Et donc c'est une tribu, la tribu de Lévi, qui va être vouée à différents niveaux, puisqu'au niveau le suprême, ce sont les Kohanim, à la Kedusha, à la sainteté. Nous étudierons un verset, d'ailleurs, qui le montre très clairement. Primitivement, l'ensemble du peuple d'Israël devait être voué au titre de l'humanité tout entière, comme peuple de prêtres de toute l'humanité, vous connaissez le verset, à la sainteté, au niveau le plus haut. Et puis voilà que la Torah juge qu'il faut être particulier pour pouvoir être susceptible, capable de la vocation de sainteté. Mais que tout Israël est Israël, mais seuls les Kohanim sont Kohanim. Alors, Avodat HaKodesh, ça c'est le rite. Et vous voyez donc que les Juifs sont dans une situation un peu décalée par rapport au plan primitif de la Torah, puisqu'au temps hébraïque, effectivement, le comportement de sainteté était garanti par l'authenticité d'une tribu particulière, qui était la tribu de Lévi, avec à sa tête les Kohanim. Déjà au temps du deuxième temple, c'est à ce niveau-là que les schismes ont apparu. Le temps du deuxième temple, c'est le temps immédiatement après l'arrêt de la prophétie. Après l'arrêt de la prophétie, on voit que tout change par rapport au récit biblique et que les différentes tendances qui travaillent l'identité humaine en Israël vont se séparer en schisme. Mais en particulier, le schisme le plus principal, c'est le schisme entre les Sadducéens et les pharisiens, et sur quoi il a porté, sur la manière de comprendre les rites du temple. Sur quoi il a porté essentiellement. Il y a d'autres dimensions. Et puis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui à la place de la tribu de Lévi, à la place des Kohanim? En principe, ce sont les rabbins. Et nous voyons qu'effectivement, que les, et je dis bien en principe, parce qu'un rabbin, ce n'est pas un prêtre. Le rabbin, c'est le maître de la communauté. Il correspond plus à la fonction du juge dans l'Israël biblique que du Kohen. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est le Chazan, le Shaler Tzibur, qui est à la place du Kohen, du prêtre. Et le rabbin, lui, est à la place du Dayan, il est à la place du juge. Mais comme nous ne sommes pas encore au temps, on a retrouvé les quatre fonctions de la société hébraïque biblique, alors le rabbin était un peu l'homme à tout faire dans les communautés. Mais sa fonction légitime, principale, c'est de dire qu'est-ce que la Torah a à dire pour la génération où on vit. Je vous raconte une petite histoire talmudique. Un jour, un étudiant de yeshiva, c'est très ancien d'ailleurs comme histoire, on la raconte dans toutes les yeshivas, pris du courage qui fait la chutzpah juive, demande à son maître à quoi ça sert les rabbins. Interdire ce qui est permis, ils ne peuvent pas, et permettre ce qui est interdit, ils ne peuvent pas. Alors à quoi ils servent? Vous voyez l'humour juif là derrière déjà. Et la réponse est très simple. Ils servent à nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et c'est la vraie réponse. Bon, et ils servent à nous dire ça quand ils le savent. Mais c'est déjà à ce niveau que les risques de schisme apparaissent. C'est chez les rabbins. Vous avez remarqué ça, fait. Les juifs, grâce à Dieu, c'est des juifs. Eh bien, les rabbins, c'est des rabbins. Vous avez compris la différence. Et alors, nous vivons dans la société juive contemporaine ces choses de façon très intense. Okay. Et alors, je reviens donc, sans l'avoir quitté, au sujet, c'est que la Avodat HaKodesh elle-même va avoir différents secteurs. Donc, le rite, c'est la Avoda, dans le sens de la Avoda, au niveau de la sainteté. C'est-à-dire, c'est encore une fois, le geste de la vie d'homme au niveau de la sainteté. Shabbat, les jours de fête, et il faudrait étudier l'Ecclésiaste à ce sujet. Alors, on est coupé, on est détaché, on est détourné de la vie profane, je dirais plus profanée, de tous les jours, et on est plus authentiquement occupé au geste de la vie. Petite parenthèse, non, je ne veux pas ouvrir de parenthèse, mais on rentrera à ces sujets. Vous avez dû remarquer, ceux qui pratiquent, ceux qui effectuent la avoda du Shabbat ou du Yom Tov, que ce jour-là, on sait pas ce qui se passe, on ne sait pas l'exprimer, mais on est, pour le dire de façon simple, plus homme. On vit plus. Et on est occupé à des choses qui importent pour les gestes de la vie. Le reste du temps, notre temps est perdu pour gagner la vie. C'est le métier. On a un temps considérable à perdre à des gestes sans aucune signification, sauf pour ceux qui ont la chance d'avoir un métier qui coïncide avec une vocation. Et c'est possible dans tous les métiers. Les chassidim ont de très belles pages là-dessus. Un cordonnier fait plus pour l'unité du monde, si c'est ce qu'il fait, en attachant une semelle à un soulier, qu'un prêtre qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais il faut rentrer au fond de ce qu'est-ce qu'il veut dire. Il fait des yichudim. Il unifie des choses séparées. Et ça sert à la vie. Ça sert au monde que Dieu nous a créé. Donc, dans la Avodat HaKodesh, il y a des secteurs. Un de ces secteurs s'appelle la Avoda Shebalev, que j'ai traduit, sans traduire, par rite oral. Et en hébreu, c'est Avoda Shebalev. Ça veut dire le culte qui se fait par le cœur. C'est ça qu'on traduit par rite oral. Il y a un grand problème de halakha. Est-ce que dans les rites oraux, il est nécessaire de prononcer ce qu'on dit pour que le rite soit réel, effectif, effectué, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire? Il y a une controverse dans le Talmud. Je vais vous dire brièvement quel est le sujet qui est très important. Finalement, la tradition a retenu que c'est nécessaire de prononcer, en particulier pour un certain nombre de rites où c'est le plus exigé, et en particulier pour l'aveu, le rite de l'aveu qui est le vidouille, qu'on appelle en français la confession. Petite parenthèse, beaucoup de juifs sont très réticents sur le rite de la confession parce qu'ils ont entendu dire que chez les chrétiens ça se trouve aussi. Eh bien, c'est pas une raison. C'est un rite authentiquement juif. Le fait qu'il se trouve aussi chez les chrétiens, c'est pas grave. C'est pas parce que quelque chose est chrétien qu'il doit être évacué. Je sais pas si c'est clair. Sinon, on risque de se priver de beaucoup de vertus indispensables. Sinon, on risque d'arriver. Et j'ai connu des penseurs juifs travailler par ce problème, d'arriver à avoir une réticence à être croyant parce que les chrétiens sont croyants. À la limite, ça, vous savez, en milieu juif, tous les chasvei shalom sont possibles. Okay, à la limite, ça se formulerait ainsi: ah, les chrétiens croient en Dieu, alors moi pas. Et ne croyez pas que c'est une blague. J'ai connu de grands penseurs qui expliquent ça à leur manière, de manière philosophique. Je reviens à vous. Et aussi, ou par exemple, la vertu de charité. Alors, puisqu'on sait qu'elle est chrétienne, on dit, ah, ça, c'est pas juif. Mais c'est faux. C'est faux. C'est une vertu authentiquement vertu. Seulement, c'est quand elle est seule et hypertrophiée et qu'on sacrifie les autres que ça devient dangereux. Mais que la charité soit une véritable vertu, dans le sens chrétien, la charité est charité. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Et il y a des héros de la charité chez les chrétiens, d'ailleurs. Eh bien, c'est une vertu authentiquement biblique. De la même manière pour la confession. Ce n'est pas parce que les catholiques ont fait de la confession ce dont ils en ont fait qu'il faut croire que c'est inattendu. Pas du tout. Je ne sais pas qui disait, un savant qui a dit ça, et ne croyez pas qu'il disait ça pour faire de l'humour. Depuis que les catholiques ne vont plus à confesse, eh bien, ils vont chez le psychanalyste. Mais ça coûte plus cher. Et c'est vrai, en plus. Je ne sais pas s'il y a des psychologues parmi vous, mais c'est clair. Les catholiques vont de moins en moins se confesser, mais vont de plus en plus chez le psychanalyste. Alors là, c'est un problème. En principe, un juif ne devrait pas avoir besoin de psychanalyste. Et s'il a besoin de psychanalyste, c'est quelque chose qui ne va pas entre lui et sa religion. Et alors, quand un juif orthodoxe a besoin d'un psychanalyste, je m'arrête là. Aussi, parfois c'est le vrai problème. Alors donc, parmi l'ensemble de ces rites, il y a le rite qu'on appelle Avoda Shevalev. Le rite qui se fait par le cœur, d'où problème, est-ce qu'il faut prononcer, parce qu'en français c'est rite oral et pas pour rien, le rite qui se fait par la parole. Alors cette controverse finalement est réglée de la manière suivante. Quelqu'un qui est véritablement tzaddik, injuste, et c'est rare, lui, on ne lui exige pas de prononcer, ni dans la prière, ni dans l'aveu. Ça se dit en hébreu, Shomer, Beozno, Shomer, Leozno, Yatsa ou Lo Yatsa. Celui qui a fait écouter à son oreille, ou n'a pas fait écouter à son oreille ce qu'il a dit dans sa prière, dans le sens général de prière, quel que soit le rite. Parce qu'un juste n'a pas, comment dire ça en français, Echad Balev et Echad Bapé. Il n'y a pas une différence entre ce qu'il pense et ce qu'il dit. Alors donc, il lui suffit de penser pour que le rite soit effectué. Ce qu'on appelle « hirur tefila » ou « hirur vidui ». Parce que, en général, nous avons une différence entre les voies multiples de notre monde intérieur et ce que nous disons. C'est dans ce que nous disons que nous engageons, vraiment. Tant que ça reste dans la réflexion intérieure, ça peut être tout ça ou ça ou ça. Il n'y a que le tzaddik chez qui ça coïncide. On a une très bonne définition du tzaddik, là. Celui qui n'a pas deux mondes dans son discours, le discours intérieur et le discours extérieur, c'est le même. C'est ça le tzaddik pour ce problème, mais ça éclaire beaucoup de choses. Parce que ça éclaire aussi sur la conduite morale. Très souvent, on a la libye de la conscience Oui, mais ma conscience est en ordre, est en règle. Oui, mais ton être n'est pas... Vous voyez ce décalage. C'est les stoïciens qui ont inventé le concept de conscience. Dans ce sens-là, qu'il avait chez les stoïciens, ce mot n'existe pas en hébreu. En hébreu moderne, pour dire conscience, on dit matzpoun. Ce mot a été forgé dans l'hébreu moderne au temps où le fait de conscience était défini comme un comportement de vie intérieure. Vous savez qu'il y a différentes écoles en psychologie qui ont chacune une définition différente du phénomène de conscience. Okay? Matzpoun, ça veut dire caché. Tsofen, c'est la boussole. Okay? On cherche le nord quand on l'a perdu, parce qu'il s'est caché. Ce qui est caché, ça s'appelle du côté du nord. Et en hébreu. Oui, vous avez déjà des petits échantillons d'exemples de la différence de recoupement des familles de mots par rapport aux mêmes racines, en hébreu ou en français. Je reviens donc à notre sujet, c'est que Avoda Shevalev, c'est la Avoda, donc le culte, Avoda Shevalev, qui se fait non pas par des actes, mais au niveau d'une effectuation de vie intérieure. Et là, il y a un monde considérable dont, encore une fois, le moderne ne sait plus saisir les nuances. Si vous avez des livres de prière en français, je vous ai demandé de lire certains passages où vous verrez que il faut vraiment être pieux pour lire ça. Vous avez compris ce que je veux dire. C'est du galimatia où tous les mots semblent être des synonymes, alors qu'en hébreu, chaque fois, c'est des catégories différentes. Par exemple, les mots qui disent la louange. Alors, louer, exalter, célébrer... Et qu'est-ce que c'est que cette accumulation de synonymes vous comprenez? Je dis souvent que quand je lis les psaumes en français, ça me rend protestant. Je proteste, tout simplement. Essayez une fois de lire sérieusement des psaumes en français, au moment de la prière. Je ne sais pas comment font les communautés libérales qui prient en français. D'ailleurs, je sais qu'elles le prient de moins en moins en français, parce que c'est difficilement...